Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Quelle éducation sexuelle dans les programmes scolaires? Eh bien, dans bon nombre de pays, le sujet embarrasse. En France, un clitoris correctement dessiné a fait son apparition dans un manuel scolaire français pour la première fois cette année. Le jugement moral pénalise-t-il l'efficacité de l'éducation sexuelle dans certains pays? Nous verrons le cas de la Tunisie, du Bénin. Bien sûr, on attend vos points de vue, vos témoignages, les voisins, si vous êtes enseignants, si vous êtes parents, lycéens. Pour lutter contre les maladies, pour lutter contre les grossesses précoces, pour aider les jeunes à construire une vie sentimentale harmonieuse, respectueuse de l'autre, l'école doit-elle, peut-elle tout enseigner? C'est une question qui fait débat dans les familles, dans les milieux religieux et politiques et qui prend d'autant plus de sens en ce moment avec la multiplication des affaires de harcèlement sexuel. Appelez-nous, surtout n'attendez pas la fin de l'émission, au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr tous vos messages postés sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Je vous présente nos invités. Antoine Boulanger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes formateur à l'école supérieure du professorat et de l'éducation, c'est-à-dire que vous formez les professeurs de SVT. Vous avez vous-même été enseignant en sciences de la vie et de la terre pendant 19 ans à l'académie de Créteil. Vous nous direz comment a évolué cette matière et vous appartenez aussi au collectif SVT Égalité. Véronique Seyé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseillère conjugale, coprésidente du planning familial et vous avez été membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous serons également en ligne à Cotonou avec Yannick Jaffray, qui est chercheur au CNRS, qui a dirigé une étude scientifique au Bénin sur 2 ans sur l'état de l'éducation sexuelle dans plusieurs écoles du pays. Et puis également en Tunisie, où le sujet est très sensible. Nous serons en ligne avec notre correspondant Michel Picard. Allez, je vous livre quelques messages postés sur le fil Facebook. On a eu beaucoup de messages. Émile, qui est en RDC, au Kassaï oriental, nous dit que parler de la sexualité, ça reste tabou et ça semble inopportun dans la plupart des écoles. Pire, nous dit Émile, les cours sont quasiment absents dans les programmes d'enseignement. Fiston est à Goma, dans le même pays. Je n'ai reçu aucune éducation sexuelle à l'école. Mon apprentissage dans cette matière s'est fait dans la douleur, avec les conséquences néfastes qui vont avec. Nastrala, qui est au Gabon, nous dit que les dirigeants eux-mêmes ne sont pas éduqués et ne veulent donc pas faire changer les choses. Ils craignent de se mettre à dos la partie la plus conservatrice de la population. Il n'y a pas qu'au Gabon. Hein. Jackie, à Antananarivo, à Madagascar, pour lui, l'éducation à la sexualité se fait principalement entre amis et rien d'autre. Roslita, Brazzaville, au Congo, Brazza, les parents ont du mal à expliquer eux-mêmes la sexualité aux enfants. Donc pour moi, l'école doit dépasser le problème et surtout s'en charger. Ça résoudrait bien des problèmes pour les parents. C'est ce que nous disent beaucoup d'auditeurs. Pascal Paré est à Ouagadougou et n'est pas du tout d'accord. Le rôle de l'école, c'est d'enseigner, ça n'est pas d'éduquer. Ça, c'est réservé aux parents. Ils doivent en parler franchement avec leurs enfants. Et on a aussi le message de Yajingé, qui est à N'Djamena, capitale du Tchad. Nous sommes conscients du problème au Tchad, mais il nous manque la méthode pédagogique pour remédier au problème dans les écoles. Diestaper, lui, est à Bamako, au Mali. Il faudrait une formation continue des enseignants. Vous voyez, beaucoup de points de vue, beaucoup de témoignages riches. 33 1 84 22 71 71. Appelez-nous maintenant. On a envie de discuter, de dialoguer de vive voix avec vous, les voisins, et bien sûr aussi les voisines.
Pour nous, les voisins, c'est comme une seconde famille.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Cette idée de voisinage, cette idée de proximité.
Tout ça, ce sont les voisins.
C'est vraiment...
Se donner des occasions de parler, de se parler.
Sans se voir forcément, et donc de voyager.
RFI.
Et la planète se parle.
Nous sommes en ligne tout de suite avec un auditeur, Florent. Florent est au Tchad, à N'Djamena. Bonjour Florent.
Bonjour Emmanuel.
Florent, non, vous êtes au Tchad, mais vous n'êtes pas à N'Djamena. J'ai commis une erreur, vous êtes dans la troisième ville du Tchad.
À part au sud du Tchad.
Exactement, vous êtes à Sarre. Vous avez 31 ans, vous êtes père de famille, et vous souhaitez nous parler de l'éducation qu'a reçue votre petite fille à l'école primaire.
Oui, il y a un programme qui est introduit à l'école, c'est l'éducation à la vie et à l'amour. Un programme d'éducation sexuelle introduit dans les établissements scolaires en vue de favoriser l'adoption par les adolescents, les jeunes, des comportements sains dans un environnement pour, par le relâchement de l'encadrement familial. Et vous savez, cette éducation prend en compte tous les aspects de la vie, y compris la préparation à une sexualité responsable. Et les thèmes du cours sont, entre autres, les manifestations de la puberté, les organes génitaux, les menstruations, les maladies sexuellement transmissibles, etc.
Florent, votre petite fille, à quel âge ?
Elle a 11 ans.
Et vous êtes satisfait de l'éducation sexuelle qu'elle reçoit à l'école primaire ?
Oui, je suis très satisfait. Puisque, parfois, lorsqu'elle rentre de l'école, moi-même, je lui donne aussi un cours à part entière sur la sexualité pour compléter ce qu'elle apprend à l'école.
Est-ce que votre position de parent, elle est partagée par vos voisins, vos amis ?
Non.
C'est-à-dire ?
Bon, dans certaines familles, parler de la sexualité est tabou. Mais ce que les parents doivent savoir aujourd'hui, il faut apprendre à l'enfant la sexualité pour braver certaines choses, puisque la société évolue et il faut que nos mentalités aussi évoluent. Les enfants ne peuvent pas rester dans l'obscurité concernant la sexualité. Donc il faut leur apprendre tout.
Pour vous, il s'agit pour vous que l'école et vous-même en tant que parents protègent votre fille finalement. Hein.
Oui.
Merci beaucoup.
Les deux vont de pair.
Oui, on a bien compris le rôle des parents et le rôle de l'école. Merci beaucoup, Florent, de nous avoir appelé de Sarre, dans le sud du Tchad. Véronique Seyer, Antoine Boulanger, peut-être déjà Antoine Boulanger, puisque vous avez été pendant presque 20 ans prof de sciences de la vie et de la terre. Alors, chez nous, c'est sciences de la vie et de la terre, c'est pas éducation à la vie et à l'amour, mais là, c'est une matière qui est bien spécifique au Tchad. Mais qu'est-ce qui a changé en 20 ans d'éducation sexuelle dans les collèges et lycées en France ?
Ah, je pense qu'en 20 ans, il y a eu peu de changements en réalité.
Vous êtes venu avec une pile de manuels scolaires.
Oui, mais si on avec des manuels sur un siècle, presque un siècle et demi en fait, depuis les débuts de l'école, donc 1882, Jules Ferry. Donc à l'époque, c'était l'enseignement scientifique. On parlait de reproduction des végétaux et on oubliait complètement les animaux. Hein. C'est arrivé seulement dans les années 1970 qu'on enseigne la biologie de la reproduction des êtres vivants. Et ça, c'est 1968 qui avait changé ça. C'était 1973, la circulaire Fontanet. Donc d'une certaine manière, ne serait-ce qu'enseigner la reproduction, c'est venu très tardivement parce que c'était aussi tabou dans notre société. Et je pense que ça le reste encore parce qu'aujourd'hui, on parle d'éducation à la sexualité et non plus, par exemple, d'éducation sexuelle. Mais en réalité, c'est les enseignants et les équipes pédagogiques et aussi les parents qui sont volontaires, qui prennent des initiatives pour que ça se fasse. Parce qu'on voit que en réalité, ça reste quand même très minoritaire dans les établissements scolaires. On peut que le regretter, mais il y a encore énormément de tabous au quotidien pour en parler à l'école en France. Et je trouvais que cette intervention était intéressante parce que ça a montré que finalement on a partout les mêmes problématiques, les mêmes tabous, et l'école doit être en fait un des intervenants, en fait parents, enseignants, l'idée de coéducation, chacun peut apporter par son regard des choses importantes, et pas oublier par exemple le dialogue, les discussions entre élèves, parce que ça aussi c'est quand même une des premières sources d'éducation à la sexualité, c'est le dialogue entre les jeunes eux-mêmes.
Et d'embarras pour les enseignants, parce que ça ricane évidemment beaucoup, tout dépend comment est fait l'enseignement. Sur la représentation par exemple du clitoris que j'évoquais au début de l'émission, il y a eu des époques où finalement cette partie-là de l'anatomie était mieux enseignée.
Oui, mais d'abord, moi je trouve intéressant qu'à la rentrée, on ait beaucoup parlé de ce nouveau manuel où il y avait une représentation du clitoris, mais je voudrais dire, il y en a aussi 8 où ça change pas. Oui. On est exactement dans les mêmes représentations que les années 70.
Là, dans ce que vous avez dans
voilà,
les mains, là.
Enfin, ces documents, justement, par exemple, le site SVT Égalité a mis plein de documents en ligne pour montrer que, bon, ben, on s'est intéressé à un manuel qui l'a montré, mais finalement, on est surpris de redécouvrir des choses qu'on connaissait il y a un siècle et demi. Ça, c'est, et ça montre que nos tabous sont aussi forts ici.
On a reculé, je comprends pas. Comment c'est possible ?
Ah ben, en tout cas, à la fin, par exemple, du 19e siècle, il y a quand même la mise en place de, d'une idéologie très scientiste, par exemple, et très machiste, on va dire. Et, par exemple, la connaissance du corps des femmes est littéralement oubliée, enterrée. Donc, il y a des manuels d'anatomie médicale au milieu du 19e siècle qui représentent finalement comme ce qu'on représente aujourd'hui le corps des femmes, et ensuite ça a
donc
été finalement effacé.
Donc plutôt hérité du siècle des Lumières, et ensuite il y a certaines parties qui disparaissent des représentations du corps, c'est ça ?
Bah oui, on met la femme au foyer, et donc c'est la
donc
femme sert à faire des enfants, oui. Mais finalement le plaisir des femmes, il est nié.
Dans le fond, quels sont les enjeux et les objectifs de l'éducation sexuelle ou de l'éducation à la sexualité ? À quoi ça doit servir, Véronique Seillier ?
Je pense qu'il faut d'abord reconnaître que l'éducation à la sexualité s'inscrit dans une éducation globale des personnes, avec comme objectif de les mener vers l'autonomie et vers la possibilité de faire des choix responsables et éclairés. Quand on évoquait tout à l'heure un petit peu l'historique de l'éducation à la sexualité, quand on parle de circulaire Fontanet, etc., il faut se souvenir que c'est en 67 que la contraception a été autorisée en France, et là on a eu peur que les femmes aient une vie sexuelle complètement débridée, hein. Et donc on a commencé à instaurer de l'éducation à la sexualité, enfin qu'on appelait éducation sexuelle, pour parler des risques liés à la sexualité, pour parler des méthodes de contraception. Donc je pense que ça c'est quand même quelque chose d'important à souligner. En 2001 a été votée une loi qui englobait éducation à la sexualité, contraception et avortement. Et cette éducation à la sexualité ne devait pas se réduire simplement justement à la prévention des risques sexuels, mais devait avoir une approche beaucoup plus globale qui permettait d'aborder la question de la relation à l'autre, la non-discrimination en raison de son orientation sexuelle, par exemple, hein. C'est-à-dire une éducation à la sexualité qui ne soit pas seulement basée sur les questions de reproduction, mais considérant comme l'OMS d'ailleurs,
l'Organisation mondiale de la santé,
l'Organisation mondiale de la santé préconise une approche vraiment globale en considérant
en tant que droit humain finalement.
C'est un droit humain. Donc c'est vraiment alors l'approche par les droits humains est absolument essentielle. Elle permet aussi de dire que cette éducation à la sexualité, elle a comme objectif de faire en sorte que chacun soit bien dans sa tête, bien dans son corps, bien avec les autres.
Cette loi Aubry de 2001 qui prévoit 3 séances d'éducation sexuelle par an depuis l'école primaire jusqu'à la fin du lycée. Donc normalement, si on fait l'addition, ça ferait pas mal de cours.
Pas mal, ouais.
Est-ce qu'elle est respectée en France ou pas, l'éducation nationale ?
Alors, si vous regardez le rapport du Haut Conseil à l'égalité très récent, non, elle n'est pas respectée. Et il y a beaucoup de résistance par rapport à ça. Hein. La statistique disait qu'à peu près 25% des établissements interrogés rapidement dans le cadre du Haut Conseil disaient n'avoir jamais mis en place une séance. Et quand elles ont lieu, c'est vraiment en général quatrième, troisième, autour des questions de reproduction.
Pourquoi ?
Déjà, ça repose sur le volontariat des enseignants. Et ça, c'est quand même important. Il faut que les enseignants se sentent à l'aise de faire de l'éducation à la sexualité. Donc, il faut de la formation, il faut des moyens. Et on voit bien sur le terrain... il y a toujours le programme à boucler, plein de choses à faire. Donc finalement, ces 3 séances, à mon avis...
C'est plus un manque de motivation que...
Ah non, je pense qu'il y a des collègues, justement, on voit qu'il y a plein de gens sur le terrain qui sont motivés, qui essayent de faire des choses. Mais on voit bien que, par exemple, ça crée aussi des résistances. Simplement, on parle par exemple du primaire. Il y a 2 ans, à Saint-Maur, ils ont projeté Tomboy, le film, et ça tombait au moment des municipales. Ben, ça a créé tout un pataquès où finalement, on pouvait plus emmener une classe de CM1, CM2 voir ce film. Pour ceux qui le connaissent, c'est un film très bien parce que ça montre justement faire réfléchir les enfants sur les sexualités possibles, enfin, et parler de choses aussi simples. Vous parliez de l'amour, etc. En fait, aujourd'hui, c'est tabou.
La sexualité est indissociable de la vie sentimentale, hein, quand même, dans la façon dont on se projette dans sa vie.
En même temps, la sexualité, elle se vit, par aussi le contact avec les autres, par un apprentissage de la relation à l'autre. Et on ne doit pas inscrire non plus la sexualité dans des normes sociales. C'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui ce que préconise l'OMS, on voit bien, il y a une étude qui a été faite qui montre qu'il y a une éducation à la sexualité peut être très normative. Vous avez des pays où, pendant qu'on va vous faire de l'éducation à la sexualité, on va vous dire attention, pas de rapport sexuel. sexuelle avant le mariage. Une éducation à la sexualité qui est basée que sur la prévention des risques donne une certaine vision de la sexualité. Donc je pense que c'est vraiment important de permettre aux jeunes et aux adolescents de pouvoir faire leurs propres choix, donc de les armer pour pouvoir effectivement être à l'aise avec ces questions-là, pour pouvoir aussi mieux se connaître.
Encore faut-il savoir comment. Et donc, bien sûr, vous nous appelez pour témoigner, notamment si vous êtes enseignant ou parent, 33 1 84 22 71 71. Dans quelques secondes, nous sommes en ligne avec notre correspondant en Tunisie, Michel Picard.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine, 7 milliards de voisins.
Quelle éducation sexuelle en Tunisie ? Bonjour Michel Picard.
Bonjour Manuel.
Vous êtes correspondant de RFI à Tunis. C'est un sujet qui brille par son absence dans les lycées tunisiens et les carences du système éducatif dans ce domaine inquiètent les experts. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Eh bien, vous vous souvenez très certainement du vent de liberté qui a soufflé sur le pays au lendemain de la révolution de Jasmin. Or, cet élan, qui aujourd'hui d'ailleurs s'essouffle et déçoit parfois, s'est arrêté aux portes de ces sujets, apprentissage de la sexualité, du corps, de l'anatomie, des sujets qui restent tabous. D'ailleurs, on ne parle pas d'éducation sexuelle ou d'éducation à la sexualité, mais l'éducation nationale se contente aujourd'hui dans les écoles de quelques rares cours consacrés à la santé ou à la reproduction, même s'il faut le souligner, il existe quelques clubs de santé dans certains établissements scolaires.
Et d'où vient ce blocage, Michel ?
Mais en fait, son fondement repose sur une idée très répandue selon laquelle mettre en place une éducation sexuelle reviendrait à inciter les jeunes à avoir des rapports sexuels précoces. Or, vous le savez, et selon des études internationales sur la question, c'est tout le contraire qui se produit. L'impact de l'éducation sexuelle retarde notamment l'âge du premier rapport et réduit également les grossesses précoces ou encore les MST, les maladies sexuellement transmissibles.
Est-ce qu'on a une idée en Tunisie de l'âge des premiers rapports sexuels aujourd'hui ?
Oui, effectivement, les études de la médecine scolaire existent, également celles de l'Office national de la famille et de la population. Elles démontrent une toujours plus grande précocité des rapports sexuels, puisque l'âge moyen de cette première expérience est désormais de 16 ans pour les filles, 17 ans pour les garçons. Or, et c'est là que c'est intéressant, dans le même temps, des enquêtes plus larges au sein des familles démontrent un total déni de cette activité précoce.
Un tabou persiste donc autour de la sexualité. Alors, ça a quelles conséquences sur les jeunes ?
Eh bien, la résistance de la société et le conservatisme ambiant empêchent non seulement l'éducation formelle dans les écoles, vous l'avez compris, mais limitent également l'éducation informelle qu'on pourrait espérer au sein des familles. Ainsi, la majorité des jeunes sexuellement actifs ne se sont pas, par exemple, protégés lors de leur premier rapport. Oui. La semaine dernière encore, un médecin a été arrêté au cœur de la Médina, à Tunis, pour pratique d'avortement clandestin. Oui. C'est précisément ce qui inquiète les experts dans ce pays, où tout de même le quart de la population a moins de 15 ans. Et j'ai rencontré hier le docteur Bellage, pédopsychiatre en pointe sur ces questions, qui déplore, elle, la place prise par Internet dans cette sensibilisation, car elle dénonce sur Internet une sexualité qui est violente et qui n'est surtout pas présentée positivement comme manière d'exprimer de l'affection, de l'amour ou tout simplement du respect de l'autre.
Et notons enfin que des changements sociétaux importants s'opèrent en Tunisie. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer pour l'éducation à la sexualité ?
Eh bien, d'abord, il faut effectivement souligner que beaucoup de sujets, Emmanuel, étaient inabordables il y a quelques années encore, notamment la sexualité d'une manière générale. La parole donc se libère autour de cette thématique. De plus en plus de personnes abordent ces questions sensibles, mais il est donc temps de les faire entrer dans le système éducatif. Ce n'est pas encore le cas. Un débat est donc fondamental pour surmonter les résistances sur ces questions éducatives, scientifiques et médicales, qui sont, vous l'avez compris, trop souvent tributaires de la société et d'une chape de plomb issue des traditions.
Merci beaucoup Michel Picard. Antoine Boulanger, juste un mot par rapport à la déferlante de la pornographie sur Internet, où là, on ne peut rien faire. Est-ce que du coup, les professeurs de SVT ont un rôle à jouer en urgence sur ces sujets-là ?
Je pense toute la société, parce qu'il y a une contradiction en fait, entre d'un côté, on pourrait dire, une hypersexualisation de la communication, la marchandisation du corps des femmes, par exemple, exemple dans la publicité, et en même temps les tabous qui restent. Il ne s'agit pas de d'interdire la pornographie, c'est une réalité.
De toute façon, c'est pas possible à moins de couper l'électricité. Hein.
Mais c'est là où il y a un enjeu d'éducation, à mon avis quand même à deux niveaux, montrer que bah, c'est pas la réalité, c'est comme des films, c'est du cinéma, c'est mis en scène, c'est construit, c'est un marché de toute façon.
Et qui ça doit faire partie par exemple de l'éducation sexuelle à l'école, d'aborder cette question-là.
Bien sûr, apprendre. On veut faire croire par exemple aux ados que c'est de la vraie vie justement, c'est un des domaines de la pornographie, et ça n'est pas plus que quand on regarde, je sais pas, Star Wars, les épées laser, elles n'existent pas. Enfin, il y a une mise en scène, et il y a un deuxième enjeu important, c'est que la pornographie majoritaire, elle reproduit complètement les codes dominants de domination masculine, d'homophobie, et ça aussi, il y a un enjeu d'éducation, justement.
Par rapport à la sexualité des mineurs.
C'est-à-dire.
Ben vous souhaitez vous exprimer aussi là-dessus, puisque vous avez.
Ah ben moi j'ai pas d'un certain point de vue. Si on veut éduquer, on n'a pas à juger les adolescents et avec qui on travaille. Comme en Tunisie, en France, c'est 16-17 ans l'entrée dans la sexualité de la majorité des jeunes. Ben c'est un fait. Et comment faire que cette entrée dans la sexualité soit positive? Et c'est pas seulement parler de l'éducation à la sexualité parce qu'il y a des maladies, parce qu'il y a des risques, parce qu'il y a la pornographie, mais aussi montrer qu'il y a des enjeux de plaisir, de respect, d'égalité,
et
de découverte de son corps.
Et des risques aussi de souffrance psychique,
hein, des
notamment
de plaisir
quand on a une histoire sentimentale qui ne marche pas.
Oui, mais ce qui est vraiment important, c'est cette notion de développer l'esprit critique, de permettre à des jeunes de poser les propres questions qui se posent par rapport à la sexualité, des connaissances du corps. On se rend compte que, par exemple, on a parlé tout à l'heure du clitoris, quand on a travaillé sur le rapport du Haut Conseil à l'égalité, en fait, très peu de filles savaient dessiner les parties de leur corps. Par exemple, en éducation à la sexualité, très concrètement, un des points qu'on travaille, c'est effectivement qu'est-ce qu'elles connaissent ou qu'est-ce qu'ils connaissent de leur corps. Donc, ils dessinent des parties du corps et on se rend compte que c'est beaucoup plus facile de dessiner les organes génitaux masculins, par exemple, que l'organe génital féminin.
Est-ce que globalement, vous, au planning familial, Véronique Seyer, puisque vous êtes coprésidente du planning familial et conseillère conjugale, est-ce que parfois vous tombez de l'armoire concernant l'ignorance des jeunes, même pas si jeunes que ça, d'ailleurs, au lycée?
Tomber de l'armoire, non, parce que ça fait un bon moment, mais c'est vrai que notre objectif...
Sur les préjugés, notamment.
Sur les préjugés, mais aussi sur le fait que ce sont des questions qui restent encore très, très peu parlées, très tabous, ou au contraire, qui sont, où on a des représentations. Enfin, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est travailler sur les représentations. Ils ont des représentations par rapport à la pornographie qu'ils voient, mais aussi par rapport à des normes qu'on leur impose.
Par rapport à la notion de consentement, par exemple.
Alors,
aussi.
La notion de. Enfin, tout ça, ça fait partie des points.
Une fille qui dit non, c'est aussi. C'est finalement une fille qui dit oui quand même. Enfin...
Ou une fille qui dit oui, c'est une salope. Ça aussi, c'est des choses qu'on entend. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de dire. Une fille qui, par exemple, met une mini-jupe, combien de filles aujourd'hui n'osent plus aller à l'école en jupe, par exemple?
Aujourd'hui, avec les affaires de harcèlement sexuel au travail, puisque là aussi on a une déferlante d'affaires dans plusieurs pays du monde, il y a urgence à reformaliser tout cet enseignement-là à l'école?
Il y a urgence à faire en sorte que non seulement on travaille sur de la répression, mais que d'abord on éduque à cette éducation à l'égalité, entre toutes les personnes, égalité entre les sexes, égalité entre les sexualités, qu'on permette à chaque jeune, quel que soit son âge, de pouvoir parler des questions de sexualité. Il faut reconnaître d'abord cette sexualité des jeunes. Aujourd'hui, on ne la reconnaît pas. On a le sentiment, et c'était très bien dit tout à l'heure par un auditeur, qu'en parler, ça va inciter. Et ce n'est pas vrai du tout. En parler, ça permet justement aux jeunes aussi d'échanger entre eux sur le fait que, bah oui, par exemple, moi, quand on me dit, qu'une fille dise à un garçon, quand on me siffle, moi, j'aime pas ça du tout, c'est important que ce soit une fille qui le dise aussi à un garçon. Et c'est ça qu'on travaille quand on fait de l'éducation à la sexualité. C'est-à-dire, la biologie, c'est quelque chose qui est important, connaître son corps, mais c'est pas suffisant. C'est vraiment les relations entre les garçons et les filles, les relations égalitaires, hein, des garçons et des filles peuvent nous dire, ah ben, je savais pas qu'on était égaux. C'est aussi travailler sur le fait que les filles comme les garçons peuvent faire leurs propres choix. Pour moi, travailler sur l'éducation à la sexualité, c'est ouvrir tous les possibles pour les filles comme pour les garçons.
14 ans, limite 15, ce soir elle a de grands projets. 14 ans, mais très bientôt 15. Ce soir, elle abordera le grand sujet. Comme elle a une grande sœur, elle sait qu'avec l'âge viennent les excès Et prendre de l'âge à 14 piges, c'est comme un gage de qualité. Elle s'était coiffée 17 ans, sapée, genre meuf qui dit 7 ans, maquillée, je te raconte pas comment. Pendant que de l'autre côté de la scène, un type collégien, 14 ans comme elle, vient de partir la rejoindre. Quelques mois qui se pratiquent, qui se connaissent, par milliers, ils s'en laissent des messages trempés dans le sucre. Pratique ce numéro pour déverser l'amour. Quand des flots d'hormones t'inondent et en un quart de tour, brûlant, comique parfois, quand ils s'enflamment pour quelques heures, quand pour quelqu'un que tu connais pas, tu donnerais ta mère et ta sœur l'amour adolescent, adossé dans les sens, virevoltant, né dans le champ, des innocences et dans le sang. C'est toujours dans mes pensées, c'est tellement beau, puissant, si tu le sais pas, elle te rappellera que Roméo avait 16 ans. Alors le voilà dévalant l'avenue du 11 novembre. La voilà l'attendant, docile et tendre. Elle aime qu'il l'aime, il aime grandir. Il aime qu'elle vienne de loin juste pour le voir sourire. Qu'elle dit, elle a déjà ses mains qui traînent presque au-dessus des fesses. Il tremble comme une feuille à chaque caresse. C'est pas le stress, non, c'est pas l'excitation, c'est juste un test. Allez, allez, vas-y mon garçon, mais rien n'y fait, rien ne s'estompe. Un peu plus tard, pour réduire les effets, il se cachera pour faire des pompes. On lui a tellement dit, faut pas forcer la main des filles, il faut les protéger. Qu'à l'heure de faire l'amour, il réalise qu'en fait, c'est lui l'objet. Alors toujours bouche contre bouche, touche contre couche, elle se débrouille pour que ses yeux sur ses seins viennent loucher. Elle retire son soutien-gorge après qu'il ait tout tenté, tout entier dévoué à une seule cause. Il regrettera le temps des toges, parce que là c'est compliqué de retirer à une seule main ce genre de choses. Les chaussettes aussi, c'est vrai, c'est le passage délicat, elle y arrive qu'avec les pieds, mais lui, il n'y arrive pas, c'est l'aventure et c'est laborieux. Mais c'est le temps et sa cambrure qu'ils tiennent dans leur petit jeu. Maintenant qu'on en est là, sous les draps, le reste n'est qu'animal. Elle sera courageuse, il fera tout pour qu'elle n'ait pas mal. Il a les yeux plus ouverts que jamais. Pourtant c'est le noir complet, deux fois en dessous, trois fois au-dessus. Elle pense à sa sœur qui l'a fait. Elle se dit qu'elle, ça y est. Elle constate qu'il ne tremble plus.
Milliards de voisins.
Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin.
Alors nous sommes en ligne avec Yannick Jaffray qui est à Cotonou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CNRS, Yannick Jaffray, et vous menez une étude depuis 2015 au Bénin sur l'éducation sexuelle en milieu scolaire. Où est-ce qu'on en est exactement? Quel est l'état des lieux?
Si nous sommes intervenus au Bénin, c'est vraiment parce qu'il y a eu une demande très forte du ministère de l'enseignement secondaire, relayée par l'ASD, et on nous a demandé de travailler sur ces questions-là. Donc il y a vraiment eu une volonté de l'État béninois de traiter de ces questions. Et quand on a été reçu à la fois par le ministre ou par les directeurs de cabinet, ils nous disaient « Notre problème, c'est qu'il y a au Bénin une épidémie de grossesse. Mmh. » Et donc le problème est parfaitement identifié. Et il y a eu quelques décisions courageuses, notamment de ne pas renvoyer les filles qui étaient enceintes, chose qui se faisait auparavant, mais éventuellement de renvoyer le garçon qui avait mis la jeune fille enceinte, qui n'est pas forcément, disons, le plus judicieux, sans doute, à mon sens, mais enfin, en tout cas, ça montre bien que la jeune fille était considérée comme victime de la situation et pas comme coupable ou initiatrice de la relation sexuelle.
Alors, on estime au Bénin qu'il y a 12 à 13 % des enfants qui ont une relation sexuelle à partir de 15 ans. Évidemment, pour les parents, ça semble trop tôt, donc du coup, des grossesses à risque. Qu'est-ce qu'on enseigne à l'heure actuelle concrètement dans les collèges et les lycées dans ce domaine?
Alors, c'est en train de bouger, puisqu'il y a des projets et des réflexions autour de ça. Mais pour l'instant, l'éducation, en tout cas au sens biologique du terme, ou la biologie de la sexualité et de la reproduction, se fait en classe de troisième. C'est-à-dire globalement quand les jeunes filles et les jeunes garçons sont aux alentours de 16 ans. C'est-à-dire que ça se fait trop tard. Et non seulement ça se fait trop tard, mais ça se fait, là encore, comme vous le disiez précédemment, plutôt sur des questions qui touchent à la biologie, et non pas la sexualité dit toujours beaucoup plus qu'elle-même, et non pas sur les dimensions de la sexualité, qui sont des dimensions sociales, affectives, religieuses et politiques. Mmh. Et en fait, la question qui se pose actuellement, c'est que, là encore, comme vous le disiez précédemment, je crois que l'État béninois est tout à fait conscient qu'il y a plusieurs mécanismes qui se mettent en place, et je pense qu'il faut les lier, il y a au moins trois mécanismes. D'un côté, il y a l'apparition de ce qu'on appelle l'adolescence, qui n'est pas forcément un âge, c'est un âge biologique, mais c'est aussi une période de la vie. Et donc, il y a encore quelques années, une jeune fille était mariée très tôt, et d'une certaine façon, elle était mariée tôt, et donc elle avait des enfants dans le cadre de ce mariage. Donc la question, disons, des grossesses non voulues ne se posait pas, à tort et à raison, d'une certaine manière.
Oui.
Le deuxième chose, c'est vraiment la mondialisation des scénarios qu'on voit, qui ne sont pas uniquement pornographiques, qui sont aussi pornographiques, mais c'est aussi de nouveaux sentiments avec les novelas brésiliennes, avec des émissions psychologiques.
Un désir de vie sentimentale, avec couplé avec un allongement de la scolarité et une volonté pour les filles de construire une vie amoureuse, finalement.
Absolument, et en même temps, par rapport à ça, quelque chose qui est quand même la grande pauvreté dans laquelle vivent beaucoup d'élèves, et qui fait que si une jeune fille veut s'acheter du vernis à ongles, veut s'acheter quelques produits, veut avoir des livres, veut avoir des chaussures, et des fois simplement manger à la cantine, eh bien si elle peut faire une halte et aller voir quelqu'un qui a déjà un salaire, eh bien elle va trouver des ressources. Et en fait, très rapidement, il y a une forme de monétarisation des relations sexuelles, simplement pour tenir sa place à l'école aussi.
Alors, juste, Yannick Jaffray, on a pas mal de messages qui sont postés sur notre fil Facebook. Il y a Chandra qui est à Yaoundé qui dit « La plupart des jeunes sont sexuellement actifs à partir de la seconde, donc il faut commencer à enseigner l'éducation sexuelle à partir de cette classe. » Hervé, qui est à Cotonou, exactement là où vous êtes, qui dit « Non, c'est beaucoup trop tard, il faut commencer dès l'âge de 5 ans de manière très progressive. » Et les sceptiques ne doivent pas forcément avoir peur du mot sexe, c'est tout un ensemble de valeurs humaines qu'on inculque à l'enfant. Et d'ailleurs, il dit, Hervé, il est professeur dans un collège à Cotonou, une éducation responsable, modèle à l'appui, et non un cours de pornographie ou d'invitation au libertinage. L'indice qui ne trompe pas, selon Hervé, c'est la réaction des jeunes quand on leur parle de sexualité. Quand ils crient qu'ils vous huent, c'est en fait qu'ils n'ont pas appris la pudeur, le bon usage de ces mots dits sensibles. Beaucoup d'enseignants évoquent la difficulté quand même d'éduquer à la sexualité parce que l'ambiance dans la classe change un peu quand même. Hein, c'est quand même pas simple à gérer une classe.
J'étais hier dans une classe où avec une trentaine d'élèves on a discuté, j'ai distribué les petits livrets qui nous servent de support. Et en fait, bien évidemment, comme dans toutes les classes, dès qu'on parle de sexualité, il y a quelques ricanements, etc. Mais en même temps, moi, j'ai été frappé par le discours extrêmement lucide des jeunes filles et des jeunes garçons. Et je crois que le problème, c'est ce que l'on va mettre sous le terme de sexualité. La participante à l'émission le disait fort bien, c'est-à-dire que éduquer à la sexualité, c'est en fait parler d'une certaine manière de politique, c'est-à-dire quelle est l'autonomie de la femme et du garçon, quelles doivent être les relations fondée sur le respect et la réciprocité entre des jeunes garçons et des jeunes filles. Qu'est-ce que l'on doit faire s'il y a du désir et s'il y a une grossesse qui s'ensuit? Qui doit prendre en charge l'enfant? Est-ce que ça doit forcément porter sur le dos de la jeune fille ou aussi sur le dos du jeune garçon? Et je pense que ce qui manque, en fait, ce n'est pas tellement un contenu, mais c'est l'ouverture d'un dialogue qui fera ensuite aménager, on n'aura jamais fini de parler de sexualité.
Mais
comment on va en parler? Ce qu'il faut, c'est réussir à ouvrir un dialogue. Moi, je pense à il y a un petit proverbe bambara qui dit « Dix onze ans, dix moulous des bagouins », c'est-à-dire le lièvre d'aujourd'hui, c'est le chien d'aujourd'hui qui le chasse. Et je pense que ce qu'il manque actuellement, ce sont vraiment des langages du présent pour penser cette nouvelle situation des relations de genre dans les sociétés qui sont des sociétés qui évolue extrêmement rapidement.
Néanmoins, les sociétés africaines ne sont pas les sociétés européennes. Il ne faut pas non plus voiler la face. Antoine Boulanger, formateur de prof de SVT en France, vous nous le disiez, il ne faut pas qu'il y ait de jugement moral en cours de SVT. Or, en Afrique, les enseignants réclament, voire ont besoin aussi de pouvoir se positionner par rapport aux questions de morale, sous la pression de la société, non, Yannick Jaffray?
Il y a une énorme demande de la part des enseignants, non seulement pour les classes, mais aussi un de nos soucis, c'est que quand on arrivait dans les collèges avec nos petits livres, les enseignants nous piquaient les livrettes pour les emmener à leurs propres enfants et pouvoir discuter avec eux.
Oui.
Donc la question qui se pose, c'est qu'on est dans des univers un peu différents. Notre univers français, il y a une école, disons, laïque et républicaine, qui n'empêche pas un ensemble de débats autour, par exemple, du genre. Mmh. C'est pas si facile que ça, on l'a vu, à enseigner. Et les univers, disons, africains, pour le Bénin, mais ce serait vrai aussi pour d'autres en Afrique sahélienne, en tout cas, sont des univers largement imprégnés de mondes religieux. Et à l'intérieur de ces religions, il y a bien sûr des prises de position, mais qui sont les mêmes un peu dans le monde entier, où les religieux insistent plutôt sur la matrimonialité, sur le fait du mariage, etc. Mais je ne pense pas que ça pose vraiment problème, parce qu'en fait, dans tous les mondes, il y a des systèmes normatifs qui sont complexes. Un petit élève français va éventuellement aller à la messe, à l'école, et en même temps regarder un film porno. Et donc, la question qui... Me semble-t-il, la question que posent les enseignants, c'est comment je peux faire et quels sont les supports dont je peux disposer pour entamer le dialogue.
Ouais.
Et je crois que c'est un peu ça qu'il faut leur dire. Et leur dire surtout, vous n'aurez pas forcément à évaluer en termes de connaissances, enfin, on peut améliorer les connaissances, mais on n'améliore pas forcément la relation homme-femme, on ne peut pas évaluer cette amélioration dans l'immédiat. Et donc il faut lancer un processus simplement d'ouverture de parole.
On a bien compris. Yannick Jaffray, merci beaucoup. Vous êtes chercheur au CNRS. Je voulais quand même préciser que vous avez commencé ce programme au Bénin à la demande du ministère de l'Éducation au Bénin et financé par l'Agence française de développement. Ça commence avec 500 élèves. Maintenant, on est autour de 5000 et il y a effectivement la distribution de livrets. C'est un programme qui va prendre de l'ampleur. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous.
7 milliards de voisins.
On est plus semblables que différents.
Il faut tenir compte des voisins.
7 milliards, pour moi, c'est totalement vertigineux. 7 milliards de voisins, de voisines, 7 milliards d'êtres humains, tous identiques, tous différents, appelés à vivre sur une toute petite planète. 7 milliards de frères et de sœurs.
De nombreux auditeurs souhaitent s'exprimer sur le sujet. Quelle éducation à la sexualité en milieu scolaire, dans les programmes scolaires? Nous donnons la parole à Maodo qui est en ligne avec nous à Mbour, au sud de Dakar. Bonjour Maodo, soyez le bienvenu.
Bonjour Emmanuel, bonjour à vos invités. Bonjour les voisins.
Bonjour.
Et les voisins.
Maodo, vous êtes étudiant en master à l'université, à l'Institut international de management. Rapidement, je sais que vous voulez témoigner de votre propre histoire, mais aussi de votre point de vue sur les freins pour l'éducation à la sexualité en milieu scolaire, les freins politiques ou religieux, je ne sais pas.
Oui, Emmanuel, vous avez raison. Je suis étudiant en master à l'Institut international de management à Dakar. Mon témoignage consiste à vous faire savoir que la sexualité ou l'éducation sexuelle reste un sujet tabou ici au Sénégal. Et le gouvernement n'ose pas introduire l'éducation sexuelle ou la sexualité sur le programme scolaire. Parce qu'au Sénégal, nous avons une particularité, c'est-à-dire nous avons des confréries religieuses. À savoir, ici au Sénégal, il y a la confrérie Mouride, la confrérie Tidiane, la confrérie Niatienne, la confrérie Laène. La liste est loin d'être exhaustive, mais je m'en arrête là.
Mmh.
Et que ces confréries ont une mainmise sur le fonctionnement des décisions que l'État prenne. Or, ces confréries religieuses refusent catégoriquement le débat de la sexualité en public. Donc, toutes ces contraintes empêchent le gouvernement de pouvoir introduire la question de la sexualité sur le programme scolaire.
Merci Maodo pour ce témoignage. C'est très intéressant parce qu'en France, il y a aussi des freins au développement de l'éducation sexuelle en milieu scolaire, y compris d'ailleurs des freins religieux, hein, faut le dire.
On a des freins de toutes sortes. On a bien vu, par exemple, au moment de la manif pour tous, les reculs...
Alors la manif pour tous, ça a été ce grand mouvement,
la
loi qui autorisait le mariage
entre personnes de même sexe. Parallèlement, se mettaient en place les ABCD de l'égalité à l'école, qui, sous l'influence de tous ces mouvements, ont été supprimés, alors pour être remplacés par des programmes davantage de formation, mais qui ont vraiment du mal à se mettre en place et à se développer, et en tout cas qui ont donné un signal important contre cette éducation à la sexualité.
C'est-à-dire un signal qui dit à l'éducation nationale, attention, terrain miné, n'allez
pas
là-dessus.
Qui crée surtout une peur chez les parents. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire quand on va faire de l'éducation à la sexualité. On a entendu des choses qui étaient quand même assez étonnantes. Et je pense qu'il y a vraiment besoin d'un soutien politique pour dire l'éducation à la sexualité, c'est vraiment ouvrir les possibles pour tout le monde. C'est vraiment permettre à tous les enfants, d'avoir des connaissances et de faire leur choix.
Il y a une pétition qui circule en ce moment sur le net.
Bien sûr,
l'éducation sexuelle, une idéologie imposée à nos enfants.
Oui, mais d'abord, il y a quand même un enjeu, enfin un aspect de propagande, parce qu'ils n'hésitent pas à répandre des rumeurs complètement infondées, parce qu'on avait la discussion à quel moment il faut parler...
L'éducation sexuelle ferait naître la pédophilie, c'est ce qu'on lit sur Internet.
On lit n'importe quoi. Moi, je voulais juste quand même revenir sur le fait qu'il faut... parler de la sexualité dès l'enfance et de manière adaptée à chaque âge. Ils ne nous attendent pas. Enfin, en maternelle, les enfants ont une sexualité et c'est une réalité. Par exemple, on n'en parle jamais dans les écoles.
Alors attendez, les enfants maternels n'ont pas une sexualité. Là, vous faites référence à Freud où il y a effectivement...
Oui, pas du tout.
Il faudrait quand même réexpliquer les choses.
Non, mais je pense que c'est... Enfin, je rejoins tout à fait ce que dit Antoine Boulanger dans la mesure où... Quand on travaille avec des tout-petits, par exemple, nous, on a un programme qui s'appelle le PRODA. C'est un programme de développement de la vie affective et sexuelle et sociale. Ce qui est important là-dedans, c'est de permettre à tous les enfants, qu'ils soient filles ou garçons, de pouvoir exprimer leurs émotions, exprimer leurs ressentis. Les petits garçons, comme les petites filles, peuvent pleurer, peuvent rire, peuvent se dire les choses. Et ça s'apprend des tout-petits. Et à partir du moment où on va pouvoir... être en capacité d'exprimer ce qu'on ressent, ce sera aussi de pouvoir dire oui, pouvoir dire non, pouvoir dire ce qui nous fait plaisir, pouvoir dire ce qui nous plaît pas.
Mais à aucun moment vous n'évoquez la nécessité de l'éducation sexuelle pour protéger les enfants.
Mais bien sûr que si, quand on travaille là-dessus, on protège les enfants. Pouvoir dire oui, pouvoir dire non.
Mon corps, c'est pouvoir découvrir son corps pour apprendre. Justement, c'est quoi la différence ? On parlait par exemple des attouchements, etc. Que les enfants prennent conscience aussi qu'il y a des choses qui sont déplacées, pas acceptables. Et là, en fait, le débat, c'est qu'on agite quand même beaucoup de fantasmes parce que ce qui est fait, c'est adapté à chaque âge des enfants. Les parents, ils ont bien aussi la question le soir, et comment on fait les bébés ? Alors, soit on met ce sujet-là sous le tapis, soit on en parle finalement avec un discours adapté à chaque âge. Et c'est ça quand même qui est gênant en ce moment, c'est qu'on entretient en fait des fantasmes sur ce qu'on ferait à l'école.
C'est exactement le témoignage de Hercy. Alors, il ne dit pas de quel pays il écrit. L'éducation sexuelle peut se révéler être une épée à double tranchant. Il ne précise pas, mais on comprend bien ses peurs. Lui-même, et dans ce cas, le tabou est préférable. Qu'on laisse la parole à une auditrice. Ils sont nombreux à vouloir témoigner sur le sujet. Léïsa est à Lomé. Bonjour Léïsa.
Oui, bonjour.
Léïsa, je crois que vous vous occupez d'une ONG.
Oui, c'est ça. Nous avons une ONG ici au Togo et nous faisons de l'éducation sexuelle dans les écoles.
Alors votre ONG, vous l'avez expliqué au standard, s'appelle ADRA Togo. C'est une ONG adventiste, pour que les choses soient bien claires. Comment vous parlez de sexualité aux enfants dans les milieux, dans les écoles, j'imagine à la demande des directeurs d'école quand vous circulez dans ces écoles?
Alors, oui et non. On a reçu quand même quelques résistances de certains directeurs.
Oui.
Mais quand on arrive à avoir une bonne collaboration avec le directeur, donc on est présent, on donne des cours pour des enfants à partir de 9 ans, jusqu'en classe de terminale, et on va parler de plusieurs aspects qui touchent la sexualité, pas seulement l'éducation sexuelle, mais aussi les maladies sexuellement transmissibles et puis le VIH. Mmh. Et ce qu'on essaie de faire, la caractéristique de notre projet, c'est qu'on essaie de créer un cercle de confiance qu'on appelle les séances à cœur ouvert.
Mmh. Alors là, vous séparez les filles et les garçons dans ces séances à cœur ouvert.
Exactement. On sépare les filles et les garçons par âge aussi. On aura un langage adapté à leur âge.
Oui.
Et on va ouvrir en fait notre cœur.
Ouais.
On peut poser toutes les questions qu'on veut. On peut discuter, on peut témoigner, on peut échanger des informations. Et c'est une séance qui est très appréciée parce que enfin les enfants sont capables en fait de parler de ce qui leur font peur, des tabous, des questions.
De sujets qu'ils ne peuvent évidemment pas aborder à la maison. Qu'en pensent les parents?
Oui. Alors, on a de bons témoignages des parents parce qu'en fait, on visite aussi les familles dans les villages et on discute avec eux aussi sur la sexualité. Et les parents souvent sont étonnés d'apprendre de nouvelles choses et d'apprendre que leurs enfants sont en train d'apprendre cela. Et on a eu des beaux témoignages, par exemple, une jeune fille qui avait été chassée de la maison parce qu'elle avait une grossesse précoce. a été rappelé à revenir à la maison après l'intervention de notre ONG.
Merci Leïsa pour ce témoignage. On voit bien que les choses avancent sur le continent africain dans des contextes bien différents. Néanmoins, le désir est le même chez les jeunes, c'est de pouvoir s'exprimer et d'avoir des réponses à toutes les questions qu'ils se posent, Véronique Seyé.
C'est pour ça, et je pense que c'est vraiment important de faire confiance aux jeunes et d'écouter ce qui a été dit dans ce témoignage, c'est cette notion de cercle de confiance. Quand on travaille sur l'éducation à la sexualité, on ne fait pas un cours magistral. On pose un cadre, je pense que ça c'est important, un cadre qui soit sécurisant pour tout le monde.
Et donc un cadre notamment avec des cours d'anatomie, expliquer déjà
pas simplement
comment
des
fonctionne
cours, mais
le
on
corps,
fait
c'est
circuler,
quand même la base.
Mais on fait aussi circuler la parole entre les jeunes. Si on part de leurs questions, ça veut dire que derrière ça, on travaille sur le respect de la parole de l'autre, sur l'écoute, sur les émotions, et ça c'est important, sur ce qu'on ressent. Et on renforce du coup aussi l'estime de soi des personnes. Et ça, je pense que c'est un des effets très importants de l'éducation à la sexualité, c'est de donner confiance, de rassurer. Et c'est important aussi de pouvoir parler aux parents pour leur expliquer ce qu'on fait là-dedans, parce que l'attitude des parents est une attitude un peu de peur par rapport à ces questions-là. On parlait de la peur panique des adultes par rapport à la sexualité des jeunes. Une question de normes aussi. On va autoriser des garçons à faire, par exemple, on ne va pas surveiller les garçons et on va empêcher les filles de faire un certain nombre de choses parce que c'est à elles de se protéger. On le voit bien aujourd'hui autour du harcèlement. Donc ce qui est vraiment important, c'est vraiment de faire en sorte que filles et garçons ensemble puissent se parler, puissent entendre les mêmes choses, puissent construire des relations aussi égalitaires.
Et encadrées par séances. Une parole adulte, notamment d'enseignants formés.
Je crois qu'il faut aller au-delà justement de la biologie, parce que la sexualité, on ne peut pas le cantonner à la biologie.
On a cessé de le dire pendant toute l'émission, voilà. Y compris nos auditeurs.
Et par exemple, au niveau de l'éducation nationale, c'est aussi l'idée que tous les personnels peuvent s'investir là-dedans, parce qu'aujourd'hui, on voit bien quand même que c'est par exemple assumé par les infirmières scolaires, par les profs de SVT, et puis des intervenants
dans l'idée
extérieurs.
Des enseignants de SVT, y compris en France, c'est quand même le sujet à enquiquinement, non, finalement?
Ah non, moi je pense que justement, on peut aussi ouvrir le dialogue avec les élèves. Ils sont toujours hyper curieux, intéressés par ces questions. Eux aussi, ils sont avec des tabous, une timidité, mais on voit bien que c'est un cadre où on peut créer plein de discussions avec eux. Et moi, je me rappelle, chaque année, quand on donne les manuels scolaires, en général, ça les ennuie, etc. Quand on donne le manuel scolaire de 4e, ils sont tous là à feuilleter le chapitre sur la reproduction humaine. Et ils ont plein de questions. Et je crois
il
que...
Il manque encore beaucoup de choses dans ces manuels. Vous êtes venu
oui,
avec
il manque des choses, mais c'est bien pour ça qu'il faut qu'il y ait... comment dire, une bataille politique, parce que aujourd'hui on parle justement du scandale du harcèlement, des violences sexuelles. Ça veut dire qu'il y a besoin d'éducation, il faut
et
des moyens pour l'éducation.
Pour refaire les manuels scolaires. Merci à vous tous, Antoine Boulanger, professeur de sciences de la vie et de la terre pendant 20 ans, maintenant vous êtes formateur d'enseignants. Merci à vous Véronique Seyé, co-présidente du planning familial. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Baptiste Madinier, Romain Dubrac. Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion du portrait d'un avocat, Bertrand Perret. Il enseigne aux jeunes des quartiers en difficulté le pouvoir de la parole pour trouver leur place dans la société, transformer leur vie. Ne manquez pas l'émission, les voisins. À demain.